The painter Piet Mondrian and furniture designer and architect Gerrit Rietveld are generally seen as the two most representative artists of the De Stijl movement. But what they have in common has rarely been defined in very precise terms. And commentators usually emphasize that the loose group of artists that was De Stijl would not have persisted if it hadn't been for its indefatigable homme orchestre, Theo van Doesburg.
Le peintre Piet Mondrian et Gerrit Rietveld, créateurs de meubles et architectes, sont considérés généralement comme les deux artistes qui sont les plus représentatifs de De Stijl. Mais ce qu'ils ont en commun a rarement été défini de manière très précise et les commentateurs soulignent normalement que le regroupement peu défini d'artistes qui étaient De Stijl n'aurait pas perduré sans les efforts de son homme orchestre Theo van Doesburg.
The best works of De Stijl display an expansiveness and openness toward the outside, here seen quite literally in Rietveld's magnificent Schröderhaus of 1924 in the windows that swing open toward the outside.
Les meilleures œuvres de De Stijl montrent une largeur et une ouverture d'esprit vers l'extérieur. Vu ici de manière tout à fait littérale, dans le Schröderhaus magnifique de Rietveld, conçu en 1924, par les fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur.
That openness comes from the inside. And this is what I would like to show today, and also argued in my catalog essay, The De Stijl Paradigm, that De Stijl's neoplasticism was aiming for a new plasticity of space. The key formal features are indeed an openness on the interior through lines and planes that slide past each other and create a dynamic and expansive environment, lines that cross over and suggest connecting with an outside, a subtle and gentle way of reaching out, so to speak, across mediums and across space, as well as time.
Cette ouverture part de l'intérieur. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. C'est ce que j'ai aussi soutenu dans mon papier, le paradigme de Stijl. C'est le fait que le néoplasticisme de Stijl ciblait une nouvelle plastique de l'espace. Les principes formels clés sont effectivement une ouverture à l'intérieur par des lignes et des plans qui s'entrecroisent, créant un environnement dynamique et large. Des lignes qui s'entrecroisent pour proposer l'effet d'une connexion avec un extérieur, une manière douce et subtile d'étendre les mains, comme on peut dire, à travers les médiums et à travers l'espace et le temps.
It's a bit like crossing hands, so ready to grasp out, to grasp other outstretched hands, which is a metaphor, of course, for what are the performative dimensions of formal arrangements that create a visionary space within which all the arts could merge. This merger of the arts across mediums and disciplines through abstraction is the topic of a book project on which I am working, involving various other artists and positing abstraction not as autonomous or as the negation and gradual reduction of a motif, but as the space posited in advance of reality where the arts can meet.
C'est comme si, en quelque sorte, on croisait ses mains, prêt à saisir les mains d'autres mains qui sont étendues vers nous, qui est bien évidemment une figure pour les dimensions de performance, d'arrangement formel, créant un espace visionnaire où tous les arts peuvent fusionner. Cette fusion des arts, à travers médias et disciplines, par l'abstraction, est le sujet de mon projet de livre actuel, avec d'autres artistes qui présentent l'abstraction non pas comme un phénomène autonome, ni comme la négation et la réduction graduelle d'un motif, mais plutôt comme un espace qui précède la réalité où les arts peuvent fusionner.
As is well known, Rietveld began as a furniture designer, first developing his compositional principles in the late teens, then similarly building the Schröderhaus from the inside outward.
Il est bien connu que Rietveld a commencé comme créateur de meubles et qu'il a développé ses principes de composition vers la fin de son adolescence quand il a construit la maison de Schröder à partir de l'intérieur vers l'extérieur.
And one of the most remarkable features is the window that locks on the corner but swings open effectively to eliminate the corner of the building, thereby extending the dynamic lines of the interior outwardly.
Une des choses les plus remarquables dans cette œuvre, c'est la fenêtre qui verrouille sur un coin, mais qui ouvre de manière très efficace, comme si ça éliminait le coin du bâtiment. Comme si ce mouvement étendait les lignes dynamiques de l'intérieur vers l'extérieur.
And note the location of Rietveld's 1921 Berlin chair, which is likewise made of asymmetrically positioned, dynamically intersecting planes that correspond with and seem to compensate for the open corner in a beautiful dialogue across mediums.
Il faut également noter la location de la chaise de Berlin, Berlin chair, faite par Rietveld en 1923, qui est également composée de plans s'emboîtant de manière dynamique et positionné de manière asymétrique et correspondant avec et compensé en quelque sorte le coin ouvert comme une sorte de dialogue belle qui traverse tous les médiums.
Frédéric Kiesler, with his City in Space of 1925, well understood the Distel paradigm, and I'm happy to see that it was included and that it is included in the current exhibition.
Kiesler, par sa cité dans l'espace de 1925, a bien compris le paradigme de Stahl, et je suis contente de voir qu'il est inclus dans l'exposition.
Intuition and process played important roles in Stahl, which makes it so very different from the more technocratic model of the Bauhaus. Compare on the right the lamp that Walter Gropius, the director of the Bauhaus, made for his office at the Weimar Bauhaus in 1923, with Rietveld's hanging lamp in the center and left. It is very likely that Gropius saw Rietveld's example, because at this point von Duisburg had taught his Distel courses in Oberweimar with reproductions and lantern slides.
Le rôle de l'intuition et des procès était très important en ce qui concerne Distel. Ce qui le différencie du modèle plus technocratique de la Bauhaus. Vous pouvez comparer à droite la lampe créée par Walter Gropius, le directeur, pour son bureau à la Weimar Bauhaus en 1923, la comparant à la lampe suspendue créée par Rietveld au centre et à gauche. Il est très probable que Gropius a vu ce qui a été créé auparavant par Rietveld, parce que à ce moment même, von Duisburg avait déjà donné des cours sur des styles à Oberweimar en montrant des reproductions et des diapositives de lanterne.
Subtle differences in placement and relationships of elements, say between an open structure and a cube, can constitute entirely different paradigms. In Rietveld's lamp, the light tubes do not touch, whereas Gropius's tubes lock on the corner and correspond to the skeleton of a cube, mirrored by the corner behind and the window grid, and ultimately establishing modularity in architecture, for which the Bauhaus, with its machine aesthetic, became famous.
Il existe des différences subtiles de placement et de relations entre les éléments, par exemple entre une structure ouverte et un cube, qui peuvent constituer des paradigmes complètement différents. En ce qui concerne la lampe de Rietveld, les tubes ne se touchent pas, alors que dans le cas de Gropius, les tubes se touchent au coin et correspondent à une espèce de squelette de cube reflété par le coin derrière et la grille de la fenêtre, et, en fin de compte, établissant la modularité architecturale, pour laquelle la Bauhaus, avec son esthétique et son aspect mécanique, est devenue célèbre.
This is literally demonstrated by the lamp that hung just outside the office, designed by then-student and later Bauhaus master Joseph Albers. Rietveld's light bulbs float around an empty, undefinable center, embody the interdisciplinary in-between, and become a floating art object, alien to the electric cables that feed the lamp, which Gropius included in his mechanized paradigm. I could extend the analysis through the bulky, more self-enclosed chairs by Marcel Breuer, inspired by, yet so different from Rietveld's example, ultimately lacking in an openness toward the outside.
Ceci est démontré de manière littérale dans le cas de la lampe suspendue juste à côté, juste à l'extérieur du bureau. Créée par Joseph Albert, qui était à l'époque étudiant et qui devait devenir le maître ou le patron de la Bauhaus. Les lampes de Rietveld flottent autour d'un centre qui ne peut pas être défini, qui est vide, mettent en forme l'entre-discipline, deviennent un objet d'art flottant, aliéné des câbles électriques qui alimentent la lampe, que Gropius avait inclus dans son paradigme mécanisé. Je pourrais étendre cette illustration en parlant des chaises solides, plus grandes, créées par Marcel Breuer, inspirées, mais tellement différentes de l'exemple de Rietveld, qui, en fin de compte, manquait d'ouverture vers l'extérieur.
Here is a little riddle. I do not think you recognize what these are unless I give you the context.
Voici un petit énigme, mais je ne pense pas que vous allez reconnaître de quoi il s'agit sans le contexte.
The typeface for the De Staël logo is likely by the Hungarian member Vilmos Huszár. As far as I know, no one has reflected on the implications of what Huszár did, nor has his design had any significant impact in typeface design.
La typographie ou la fonte pour le logo DS a été créée certainement par Vilmos Huszár, le membre hongrois. Je crois que personne jusque-là a bien reflété sur les implications de l'œuvre de Huszár. Je crois non plus que son design a eu un impact significatif sur le design concernant la typographie.
The Bauhaus sans-serif type by Herbert Beyer is famous, shown here on the screen below, but it treats letters as units, whereas Huszár breaks typeface down, each letter from the inside, and establishes an expansive relational logic predicated on subtle differences between each letter.
La fonte sans-serif, la Bauhaus, créée par Herbert Beyer, est célèbre, mais traite des lettres d'unité, alors qu'Huszár décompose la fonte en travaillant chaque lettre depuis l'intérieur pour établir une logique expansive relationnelle qui est basée sur les différences subtiles entre chaque lettre.
With his radical abstract sculptures, which were reproduced in De Staël, as shown here to the top right, Belgian sculptor Georges Fontongalo had more of an impact on architects than on sculptors.
L'impact du sculpteur belge Georges Fontongalo était plus fort en ce qui concerne les architectes que d'autres personnes qui travaillent à la sculpture, parce que ses propres sculptures étaient radicales et abstraites, et reproduite par De Staël, comme vous pouvez voir ici en haut à droite.
The magnificent construction of volume relations of 1924 from the Peggy Guggenheim collection in Venice, here shown with the artist's diagram, is not about mass or modeling, as most sculpture had been, but instead shares in De Staël's penchant for asymmetry and expansion, purely through relations of volumes.
La construction de relations de volume de 1924, qui est issue de la collection Peggy Guggenheim à Venise et qui est montrée ici avec le schéma de l'artiste, ne concerne pas les masses, ne concerne pas le modelage, comme ça a été le cas pour beaucoup de sculptures. Mais à la place, partage l'attraction de De Staël pour la symétrie et l'expansion, en travaillant purement les relations entre volumes.
The expansive modality comes out of Fontongalo's attempts in the late teens to show the body in relation to a presumed substratum of natural forces that have shaped it. In the catalogue for Fontongalo's recent retrospective in Duisburg and The Hague, I connected these ideas to Fontongalo's interest in a wide range of thinkers, above all Baruch Spinoza and the Dutch nature philosopher Mathieu Schoenmakers.
L'origine de la modalité expansive se trouve dans les tentatives de Fontongalo vers la fin de son adolescence de montrer le corps en le mettant en relation à un substrat de force naturelle supposée qu'il avait formé. Dans le catalogue pour la rétrospective de Van Tongalo à Duisburg et La Haye qui a eu lieu récemment, j'ai travaillé sur le lien entre ces idées et l'intérêt de Van Tongalo pour une large gamme de penseurs. Avant tout, Baruch Spinoza et le philosophe de nature Mathieu Schoenmakers qui est néerlandais.
I'm showing four diagrams by Schoenmakers. Citing Heraclitus, Schoenmakers saw the world and the cosmos at large as an eternal flux of opposing forces. He schematized nature's spherical shapes in terms of expansive and contractive forces that, in essence, can be diagrammed as the verticals and horizontals that lie at the base of de Stael's plasticity of space.
Citant Heraclitus, la vision de Schoenmakers du monde et du cosmos en général était comme un flux éternel de forces opposantes. Il a schématisé les formes rondes de la nature en termes de forces expansives et contractives qui, essentiellement, peuvent être schématisées comme des plans verticaux et horizontaux qui sont à la base de la plastique de l'espace de Stael.
Mondrian and most other founders of the de Stael were deeply indebted to Schoenmakers for his ideas and terminology, but key, always, is the dynamism and expansive thrust that come from the inside, as seen in Mondrian's 1917 composition In Line.
Mondrian, et comme la plupart des autres fondateurs de de Stael, devait beaucoup à Schoenmakers pour ses idées et sa terminologie, mais la clé, habituellement, se trouve dans le dynamisme et l'impulsion expansive qui viennent de l'intérieur, comme vous pouvez voir ici dans la composition en ligne de Mondrian datant de 1917.
I will come back to Mondrian, but I first would like to share a discovery I recently made in the Van Tongelo archive. I had known this photograph Van Tongelo made of works that are now lost, in which I had long known this photograph. In which he diagrams the vase of flowers at the left top through a complex geometry at the top center and to the bottom left as little spheres that act as dynamic centers of expansion. You can see them here at the bottom left. It's kind of like little soap bubbles popping. And here are two furthermore examples of the abstraction that comes out of the vase at the top left. So here are the two diagrams, and here what ends up being two paintings that are completely abstract of the same motif.
Je vais revenir à Mondrian, mais d'abord je voudrais partager une découverte récente qui émane des archives de Van Tongalo. J'étais déjà familier avec cette photographie, composée d'œuvres qui sont maintenant perdues, dans lesquelles il esquisse le vase de fleurs en haut à gauche, utilisant une géométrie complexe au centre en haut et en bas à gauche comme des petites sphères qui agissent comme des centres dynamiques d'expansion. C'est comme des petites bulles de savon qui explosent. Et deux peintures sont en résulté de ces schémas.
I subsequently discovered a letter from the summer of 1915 in which von Duisburg recommends to Van Tongelo Maurice Boucher's Essai sur l'hyperespace, le temps, la matière et l'énergie. Boucher was a bona fide mathematician, and he explains in fairly straightforward terms the logic of higher dimensions, of hyperspace, the way mathematicians still do today.
Par la suite, j'ai découvert une lettre datant de l'été 1915 dans laquelle Van Duisburg recommande à Van Tongelo l'essai sur l'hyperespace de Maurice Boucher qui s'intitule « L'essai sur l'hyperespace, le temps, la matière et l'énergie ». Boucher était mathématicien authentique et il explique de manière assez claire la logique des dimensions élevées ou l'hyperespace de la même manière que font les mathématiciens d'aujourd'hui.
In the bottom diagram, you see how the cube expands or unfolds in space. But in the diagram at the top, the laws of perspective are already stretched to their limits in rendering a so-called hypercube or tesseract, which exists in four dimensions.
Dans le schéma en bas, vous pouvez voir comment le cube subit l'expansion dans l'espace. Mais dans le schéma en haut, vous pouvez voir que les lois de la perspective sont déjà étendues jusqu'à leurs limites. Et de ce fait, ils rendent un soi-disant hypercube ou tesseract. Ils créent un hypercube ou tesseract qui existe en quatre dimensions.
And we cannot really picture a cube in five dimensions or a pentaract. It simply flattens out in the diagram shown here.
Il est impossible de visualiser un cube avec cinq dimensions, qui peut s'appeler un pentaract, parce que ça devient tout simplement plat, comme vous pouvez voir dans le schéma ici.
But I think it is exactly what Fontanolo tried to show in the diagram that he juxtaposed here with the studies for an important abstract sculpture from the Tate Modern, which is currently in the show here.
Mais je pense que c'est exactement ce que Fontanolo a essayé de démontrer dans le schéma juxtaposé ici avec les études pour un abstrait très important, une sculpture abstraite très importante qui est actuellement exposée dans la galerie Tate Moderne.
Which I know is actually in the exhibition here, but it's from the Tate Modern.
Oh, pardon, qui est exposée ici et qui vient de la galerie Tate Moderne, pardon.
Merci. Inside the diagram, Fontanolo shows a five-dimensional hypercube next to his étude of 1919.
Dans ce schéma, Fontanolo montre un hypercube avec cinq dimensions à côté de ses études de 1919.
It took me some hard looking to realize that he tried to do the same with the vase of flowers.
J'ai dû passer du temps à regarder très attentivement pour me rendre compte qu'il essayait de faire la même chose avec un vase de fleurs.
I'm sorry, I apologize to be taking you to through this material, but I feel that I need to do so, not to take a shortcut by saying that the artist was inspired by esoteric theory. I believe this is the material of history, of artists who probe deeply into new theories of space, of a new plasticity of space. They work with the feverish conviction of being on the threshold of something new.
Je m'excuse, mais je pense que même si je dois vous montrer beaucoup de matériel, c'est parce que je ne dois pas prendre un raccourci en disant tout simplement que l'artiste était inspiré par la théorie ésotérique. Parce que voilà, c'est l'étoffe de l'histoire, cela, d'artistes qui regardent de manière très profonde les nouvelles théories de l'espace, une nouvelle plastique de l'espace. Il travaille avec une conviction profonde qui sent sous le seuil d'une découverte de quelque chose de complètement nouvel.
Note, for example, the concentric squares here around the vase that all go back to this central point, and also the diamond shapes. And I believe that is the same thing that happens here in the inside the cube, where you see also diamond shapes and you see squares that go that become smaller. These lines, by the way, are not the lines of perspective, but vectors in hyperspace.
Regardez ici les formes carrées concentriques et également les formes en forme de diamant sur le plan pictural. Et maintenant, regardez cet autre carré sur le même plan pictural avec les mêmes carrés concentriques et les mêmes diamants. Et sachez que les lignes ici ne sont pas des lignes de perspective, mais plutôt des vecteurs dans l'hyperespace.
Then this diagram here of the Tate sculpture is a two-dimensional version of the three-dimensional figure of a person on a chair with the diagonal vectors intersecting. Note in the painting the head at the top and the downward cascading effect. So this would be the head, like this one here, and then there's the downward cascading effect. And the role of color in creating this new plasticity of space, the yellow coming forward because it is offset by the cooler and recessive blues to the side of the head.
Ce schéma est la version à deux dimensions de la figure tridimensionnelle d'une personne assise sur une chaise avec des vecteurs diagonaux en intersection. Et vous pouvez voir la tête en haut et la cascade vers le bas, l'effet de cascade vers le bas. Le rôle que joue la couleur pour créer cette plastique de l'espace. Par exemple, le jaune qui vient vers l'avant et le bleu qui est une couleur plus froide qui semble reculer.
I do not have time to go into this, but for Fontongolo, everything was interconnected through geometric shapes within the home and in architecture, bringing the universe into the living room, so to speak.
Je n'ai pas vraiment le temps pour entrer dans les détails, mais pour Fontongolo, tout était interconnecté par sous forme de formes géométriques à l'intérieur de la maison. Également, dans l'architecture, c'est comme si on amène l'univers dans le salon.
And similar demonstrations can be made for Bart van der Lek, who had a long-standing interest in architecture and especially the role of painting and color in the interior. But I would like to discuss two other instances of the plasticity of space through the examples of von Duisburg's Diagonal and Mondrian's paintings and studios.
Je pourrais vous montrer d'autres démonstrations par rapport à Bart van der Lek, qui s'intéressait pendant longtemps à l'architecture et surtout le rôle de la peinture et de la couleur à l'intérieur. Mais je préfère discuter deux autres exemples de la plasticité de l'espace en utilisant les exemples de Diagonal de van Duisburg et les peintures et les studios de Mondrian.
Inspired by Boucher, van Duisburg experimented with hypercubes. But I believe his starting point was more visual and pictorial than mathematical, as it was for Fontongolo. Note how in the example of von Duisburg's tesseracts, or these hypercubes here, on the right, there is the standard unfolding by unit length of a cube that lies in the center.
Inspiré par Boucher, von Duisburg a expérimenté avec les hypercubes, mais je crois que son point de départ était plutôt visuel et pictural, plutôt que mathématique, comme c'était le cas pour Fontongolo. Par exemple, vous pouvez voir dans l'exemple de von Duisburg, ces tesseracts qui sont illustrés ici à droite, qui a un déroulement standard par unité de longueur d'un cube qui est situé au centre.
You probably have seen so-called Necker cubes, which alternate views from below and above, sometimes in quick succession, as is also the case in the Boucher diagram. Von Duisburg rendered such Necker cubes inside his tesseractic studies. But what interests me again is how he, as an artist, played with the expansive potential of the new mathematics, creating what he calls in barely recognizable handwritings across as une nouvelle dimension, a dynamic expansion that moves outwardly in both rectangular and diagonal directions.
Vous avez certainement vu les cubes appelés Necker cubes, cube Necker, alternant des vues de dessus et dessous, souvent en succession rapide, comme c'est aussi le cas dans le schéma de Boucher. Van Duisburg a créé de tels cubes Necker à l'intérieur de ses études tesseractiques, mais ce qui m'intéresse encore, c'est comme lui, en tant qu'artiste, a joué en quelque sorte avec le potentiel d'expansion de la nouvelle mathématique, créant ce qu'il appelle, dans son écriture à peine lisible, une nouvelle dimension, une expansion dynamique qui bouge vers l'extérieur en direction rectangulaire et en même temps diagonale.
How can we understand the role of the diagonal? It came up as early as 1918 in this design for a stained glass window, which is in the exhibition, but also figured in the study on the left for a 1918 composition. In 1918, the diagonal likely was eliminated because this was the trend in early de Staël and because the older Mondrian at that time set the tone in discussions with the still impressionable von Duisburg.
Comment est-ce que nous pouvons comprendre le rôle du diagonal? Ça a été suscité aussitôt que 1918 par cette esquisse pour un vitrail qui figure dans l'exposition mais qui figurait aussi dans l'étude. À gauche, vous voyez pour une composition en 1918. En 1918, le diagonal a été laissé de côté Certainement parce que c'était la tendance dans les premières années de De Staël, et parce que Mondrian, qui était plus âgé à l'époque, semblait donner le ton dans les discussions avec Van Doesburg, qui était encore en formation.
But by 1924, Van Doesburg was on a path all his own. And I believe the problem of the diagonal becomes pertinent again because he takes up the study of the tesseract anew.
Mais en 1924, Van Doesburg avait déjà trouvé son propre chemin. Et je crois que le problème du diagonal devient de nouveau pertinent parce qu'il résume son étude du tesseract.
But different from Malevich's hypercube on the left, where hyperspace is invoked through the geometry of the extended cube with added symbolic or emblematic elements, such as the timepiece or cubo-futurist signifiers for motion, von Doesburg chooses to pursue a strictly pictorial plasticity.
C'est différent du hypercube de Malevich, qui est illustré à gauche, qui invoque l'hyperspace par la géométrie du cube étendu, avec certains éléments ajoutés, des éléments symboliques ou emblématiques, par exemple l'élément temps ou des symboles cubo-futuristes signifiant le mouvement. Et Van Doesburg choisit plutôt de poursuivre une forme de plasticité qui est strictement picturale.
His strategy comes to fruition, I believe, the year after, in 1925, in the magnificent monumental countercomposition number 16 from the Gemeente Museum in The Hague. The work was part of what Van Doesburg considered his correction, quote-unquote, to static neoplasticism, a term and idea that infuriated Mondrian, who, as we will see, saw his work as dynamic.
Sa stratégie trouve son épanouissement, son summum, je crois, l'année d'après, 1925, autour de la contre-composition 16, magnifique, monumentale, du musée de La Haye. Cette œuvre faisait partie de ce que Van Doesburg considérait sa correction d'un néoplasticisme statique, un terme et une idée qui agaçait Mondrian, qui regardait son œuvre comme quelque chose de dynamique, comme nous allons voir.
But what happens here? Yves-Alain Bois, for example, argue that this work is a regressive and breaks with the De Staël idea because it returns to the diagonals of perspective. He sees the composition as sliding off the picture plane. Rather than see this as a failed attempt at establishing flatness, I propose a reading that takes into account von Doesburg's interest in new modalities of space. Note, for example, the linking of two adjacent color planes, one slightly lighter than the other.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Yves-Alain Bois, par exemple, a soutenu que cette œuvre régressive est rompt avec l'idée de De Staël parce qu'elle retourne aux diagonaux de la perspective. Lui, il voit plutôt que la composition part en glissant du plan pictural. Mais plutôt que de regarder cela comme une tentative qui a échoué, une tentative d'établir la planéité, moi je proposerais une lecture qui prend en considération l'intérêt de Van Doesburg pour les modalités de l'espace. Notez ici, par exemple, la connexion entre deux plans colorés juste à côté l'un de l'autre et l'un légèrement plus clair que l'autre.
So looking again at those two color differences and keeping the hypercubes in mind, the two color planes all of a sudden take on dimensions if we see them as different sides of cubic forms moving in and out of space around the picture plane, so to speak, an effect that has not been noted by commentators but is impossible to ignore once it is perceived. The effect is of a jutting out or in, or actually, as with the Necker cube, both.
Nous devons garder à l'esprit ces différences de couleurs et aussi les hypercubes. Et si nous le faisons, ces deux plans colorés subitement prennent des dimensions autres. Si nous les regardons comme différents plans de forme cubique qui entrent et qui sortent de l'espace autour du plan pictural, un effet qui n'a pas été noté par les commentateurs, mais qui est impossible à ignorer une fois perçu. C'est un effet d'une protrusion vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ou, en fait, avec un cube Necker, les deux.
These color planes are sometimes extended or engage the sides of the canvas, as in the cutoff blue at the top. The way the blue appears cut off by the top, for example, activates the intersection between three white and gray planes to the right, which make them alternately flip back and forth and establish a dialogue with the darker gray in the corner. A similar ever-shifting spatiality appears in the gray and white planes below the yellow, in the leveling effect of the large rectangle that connects the red and blue, and so on, all in direct dialogue with the edge of the painting, which thus becomes a literal three-dimensional object with real edges that wrap around.
Ces plans colorés sont parfois étendus ou bien engagent parfois les côtés de la toile, comme le bleu en haut qui semble en quelque sorte coupé court. Et le fait que ce bleu semble être coupé à l'extrémité haute, par exemple, active l'intersection entre trois plans blancs et gris à droite qui semblent les faire bouger en avant, en arrière, pour établir un dialogue avec le gris plus foncé qui se situe au coin. Une spatialité similaire, en mouvement constant, apparaît dans les plans gris et blanc qui se trouvent juste en dessous du plan jaune, avec un effet d'aplanissement du rectangle grand rectangle pardon, qui connecte le rouge et le bleu, etc. Et tout cela en dialogue direct avec les bords de la peinture, qui devient ainsi un objet littéral tridimensionnel, avec de vrais bords qui semblent bouger pour couvrir.
It is as though that play between literalness and a suggested, yet nevertheless presumed real dimension of hyperspace is taken over as a template of sorts in the 1927 color designs for von Duisburg's Cine Dancing at the Obet. The studies for the monumental room also each time show two colors in slightly different values or in slightly different but related hues, meant to create a similar dynamism in the room across walls.
C'est comme si ce jeu entre ce qui est littéral et ce qui est suggéré, mais qui est néanmoins présumé, une dimension réelle présumée de l'hyperspace, a été adapté comme une espèce de template ou de modèle dans les designs colorés de 1927 pour le Cine Dancing Cinéball de l'Obet créé par von Duisburg. Les études pour la pièce monumentale montre à chaque fois deux couleurs avec des valeurs un petit peu différentes ou des teints légèrement différents, mais en relation l'un avec l'autre. Et le but était de créer un dynamisme similaire dans la pièce à travers les murs.
This is impossible to see from the studies of individual walls and only partially graspable from photographs of the reconstructed room. In some ways, we need to go to the historical black and white photographs.
Ceci est impossible de voir quand nous étudions les murs de manière individuelle et seulement partiellement compréhensible en regardant des photographies. Il faudrait plutôt voir la pièce reconstruite et en quelque sorte les photographies plus anciennes en noir et blanc montrent plus clairement les effets voulus.
So the historical black and white photographs that I show here really give a better impression, particularly if you look at the upper corners of the room, which again play tricks on your eyes, now creating the illusion that the upper corner of the room turns inside out in our direction, simultaneously flipping back into space.
Donc, comme j'ai dit, les photographies noires et blancs donnent une meilleure impression, particulièrement dans les coins supérieurs de la pièce, avec un effet trompe-l'œil, créant l'illusion que le coin supérieur de la pièce se retourne de l'intérieur vers l'extérieur, vers nous, en notre direction, et simultanément, se retourne dans l'espace.
This conceit, a wholly new vectorization of real and implied space, never before or since attempted in built architecture, draws a real, that is, a three-dimensional corner into the presumed underlying spatio-temporal dimensions of hyperspace, while functioning in an environment enlivened by modern film and dances.
Cette présomption, une nouvelle vectorisation de l'espace impliqué est réelle, qu'on n'avait jamais tenté de créer auparavant dans une construction architecturale, attire un coin réel, c'est-à-dire tridimensionnel, un coin tridimensionnel et réel, vers les dimensions spatio-temporelles présumées et sous-jacentes de l'hyperespace, en même temps fonctionnant dans un environnement auquel donnent vie des films modernes et des danses modernes.
I would like to end the last five or six minutes or so of this lecture with new material on Mondrian, which I did not include in the catalogue essay. How can we see Mondrian's 1921 composition as dynamic and expansive, as in fact an extension of the way the 1917 composition on the left expands in all directions around the picture plane?
J'aimerais parler pendant ces cinq dernières minutes par rapport à du nouveau matériel sur Mondrian que je n'ai pas inclus dans ce que j'ai écrit pour le catalogue. Comment est-ce que nous pouvons percevoir la composition de Mondrian faite en 1921 comme dynamique et expansive, comme une extension de la manière selon laquelle la composition de 1917 à gauche s'élargit dans tous les sens autour du plan pictural?
In order to answer that question, we need to backtrack to 1908, when Mondrian first embraced primary colors via Goethe's color theories. The sunlight in this painting seems to shine from above and behind the mill and is so intense that the retina cannot handle the stimuli, producing after effects that seem to vibrate.
Pour cela, il faut revenir en arrière à 1908. Vous voyez ici le tableau du moulin, quand Mondrian a d'abord, pour la première fois, embrassé les couleurs primaires à travers les théories sur la couleur de Goethe. Et dans ce tableau, les rayons du soleil semblent venir du haut et derrière le moulin. Elles sont tellement intenses que la rétine ne peut pas gérer les stimuli, ce qui produit des effets qui semble vibrer.
Note the patches of yellow in a line and how these create the spectrum of primaries, all troweled on with a palette knife. Critics were flabbergasted, except for Israel Quirido, who noted that this picture is not about any of the particularities of what is represented, but instead, quote, the moment of sensation of the height of the glowing day. Everything, but everything, is in the service of a hymn to the sun. The resounding blaze of summer light, the whirlpools of color from summer daylight, ferocious and vehement, in the face of which, stunned and blinded, you slammed your eyes shut.
Regardez le jaune, qui est le jaune linéaire, et comment ces bouts de couleur créent un étalage des couleurs primaires. Tout ce qui a été fait avec un couteau d'artiste. Les critiques étaient complètement étonnés, sauf Israël Quirido, qui notait que ce tableau ne concerne pas vraiment les particularités de ce qu'il représente, mais que ce qu'il représente en réalité, au niveau profond, c'est le moment de sensation au summum d'un jour brillant, où tout, vraiment tout, sert un hymne, un cantique à la gloire du soleil, qui est resplendissant dans la lumière de l'été. La couleur qui tourne de l'éclat de l'été, féroce et véhémente, devant laquelle, étourdi, aveuglé, il faut tout de suite fermer les yeux.
Mondrian corresponded with Quirido, and the image of a hymn to the sun, as well as the idea of closing one's eyes, are resonances of a Goethean approach to color, which involves studying after effects and vibrations inherent in the organ of vision. Goethe also explored extremes, as in depriving the eye of light, which he discovered does not result in the absence of vision, but in a craving of the eye for light and color, producing subtle, liminal experiences that Mondrian also explored.
Mondrian a échangé des lettres avec Querido et parlé de l'image de ce cantique au soleil. Et cette même image, aussi bien que l'idée de devoir fermer les yeux, sont des résonances de l'approche de Goethe à la couleur, qui implique l'étude des effets et des vibrations inhérentes dans l'organe qui gère la vision. Goethe avait aussi exploré des extrêmes en privant l'œil de lumière, ce qu'il a découvert après ne résulte pas dans une absence de vision, mais dans une soif de l'œil pour la lumière et la couleur, produisant des expériences sublimes et subliminales que Mondrian avait aussi explorées.
Mondrian's Red Tree from the same year can be seen as a counterpart to the mill, but now is about the deprivation of light rather than its excesses.
L'arbre bleu de Mondrian, qu'il a créé pendant la même année, peuvent être vus comme complétés, comme un complément au moulin, mais concernent plutôt la privation de lumière, plutôt qu'un excès de lumière.
It was only recently discovered that the tree, in its first showing, was hung as a triptych with two self-portraits, also in this exhibition. Here, Mondrian shows himself with an intense stare and with dilated pupils, which suggests a Goethean fixation on exploring color effects that are innate to the retina. Goethe showed that the eye produces primary colors even without light.
Nous avons découvert seulement récemment que l'arbre bleu, la première fois qu'il était exposé, était suspendu avec deux autres autoportraits, également ici, dans cette exposition. Dans ce cas, Mondrian se montre qu'il regarde fixement, avec des pupilles dilatées, qui montre, qui illustre l'obsession de Goethe pour explorer les effets de couleurs qui sont innés à la rétine. Goethe a montré que l'œil produit des couleurs primaires, même sans la lumière.
Color presents a retinal, embodied experience in Mondrian's art, and color has its own space.
La couleur présente une expérience rétinienne mise en forme dans l'art de Mondrian, et la couleur a son propre espace.
As Mondrian wrote, quote, "Neoplasticism expresses the essence of space through the relationship of one color plane to another. The idea of colors as space, or color space, is also connected with Goethe, who wrote that yellow, like the sun, radiates toward the viewer, whereas blue, like the sky, has recessive qualities. Red solidly occupies the space in between."
Comme Mondrian l'a écrit, et c'est une citation, le néoplasticisme exprime l'essentiel de l'espace par la relation entre un plan coloré et un autre. Fin de citation. L'idée des couleurs comme espace ou d'espace coloré est aussi liée à la pensée de Goethe qui a écrit que le jaune, comme le soleil, est rayonnant et rayonne vers celui qui l'observe, alors que le bleu, comme le ciel, recule. Le rouge occupe solidement un espace entre les deux.
In Mondrian's composition, this creates a relational back-and-forth movement. Mondrian attempted to move away from form and toward the relations between compositional elements, away from individualism and repetition, hierarchy and domination.
La composition de Mondrian crée un mouvement qui est en relation, un mouvement qui va vers l'arrière et vers l'avant, mais toujours en relation. Mondrian a tenté de laisser derrière la forme et d'embrasser l'idée des relations entre les éléments d'une composition, de se détourner de l'individualisme et la répétition, l'hiérarchie et la domination.
The large square, for example, this central element here, is the most conspicuous element of the composition, but it is placed off-center and white, so that it is possible that its possible role as figure is simultaneously balanced by its status as opposite or background, thereby also engaging the back and forth of color. If we try to see the square for its own sake, it reveals a conspicuous emptiness, an outward pull away from itself toward the heavy defining lines surrounding it, and then further outward in relation to the frame.
Le grand carré, par exemple, est l'élément le plus en vue dans cette composition, mais il est décentré et blanc, avec l'effet que son rôle potentiel de figure est équilibré simultanément par son statut d'opposé ou d'arrière-plan, ce qui l'engage également dans le mouvement en avant, en arrière des couleurs. Si nous essayons de visualiser le carré juste pour le carré, tout seul, cela révèle un vide très évident, une attirance vers l'extérieur, une attirance au-delà du carré même, vers les lignes qui l'entourent, et puis au-delà des lignes, vers le cadre.
The outline is part of the square, but also extends beyond it. Each element or identity exists only by virtue of its outwardly mediating, differential and relational function within the whole. The colors are placed on the periphery and thus appear to expand outwardly, yet they simultaneously also connect inwardly to each other as color. The square's differential play with lines and planes is very precise and situated right next to the blue plane, which is just as wide as the black lines encapsulating it, prompting the question whether it is a line or a plane, or both.
Les lignes autour font partie du carré, mais étendent aussi au-delà du carré. Chaque élément ou chaque élément identifié existe seulement à cause de sa fonction de relation différentielle et médiatrice vers l'extérieur, vue dans le cadre du tout. Les couleurs sont placées vers les bords et semblent bouger vers l'extérieur, mais en même temps se connecter vers l'intérieur en tant que couleur. Le jeu différentiel du carré avec les lignes et les plans est très précis, est situé juste à côté du plan bleu, qui est aussi large que les lignes noires qui l'entourent. Ce qui évoque la question, est-ce qu'il s'agit d'une ligne ou d'un plan, ou des deux?
Once we note the outward, inward, dual movement of expansion and limitation in all directions, including depth, the whole composition comes to life as a play of purely spatial relations, as though we were witnessing a breathing organism, a dynamic balance which the artist saw in terms of life, and indeed derived from his perception of nature's forces.
Une fois que nous avons saisi ce mouvement, ce double mouvement vers l'extérieur, vers l'intérieur, d'expansion, de limitation dans tous les sens, y compris dans le sens de la profondeur, toute la composition prend vie comme un jeu de relations purement spatiales, comme si nous étions les témoins d'un organisme qui respire, un équilibre dynamique que l'artiste considérait dans des termes de vie et qui dérivait même de sa perception des forces de la nature.
Turn the painting upside down, and you feel the red plane seems squashed in the bottom right corner.
Si vous mettez l'œuvre dans l'autre sens, la tête en bas, vous avez l'impression que le plan rouge est écrasé dans le coin à droite, en bas.
Viewing the work on either of its sides creates awkward sensations of tilting.
Et si vous regardez de l'un ou l'autre de ces côtés, vous avez une sensation très bizarre d'être balancé.
It's very strange, isn't it? It's just...
C'est une impression bizarre. Ça
It's
n'a
almost
pas de sens.
Painful.
ça fait mal.
There is a floor built into the composition, so to speak, portending the eventual integration of neoplasticism with a new environment.
Un plancher fait partie intégrale de la composition, si on peut dire, représentant l'intégration éventuelle du néoplasticisme avec un environnement nouveau.
And it is no coincidence that in 1920-21, when he found his mature style, Mondrian began to alter his studio in Paris. Painting was ready to merge with the wall planes of architecture.
Et ce n'est pas une coïncidence que dans les années 1920 et 21, quand son style est venu à maturité, Mondrian a commencé à changer son studio à Paris parce que la peinture était prête à être fusionnée avec les plans muraux de l'architecture.
Several important commentators claim that Mondrian was naive about architecture, did not understand it. I think he wanted to transform how we think about and exist within the built environment through expansive principles and embodied colored experiences.
Certains commentateurs importants prétendent que Mondrian était naïf dans ses opinions sur l'architecture et qu'il ne la comprenait pas. Personnellement, je pense qu'il voulait transformer notre manière de penser, notre manière d'exister au sein de l'environnement bâti, par les principes de l'expansion et des expériences de couleurs mises en forme.
It has never been noted, for example, that he had colored pasteboards stick out past corners. Like here at the top, you see how it sticks out. Not unlike what Rietveld did. And note how this one, right below, stops just short of the edge.
On n'a jamais remarqué, ou noté par exemple, qu'il avait des panneaux qui dépassaient des coins, ce qui ressemble un petit peu à l'œuvre de Rietveld. Et vous pouvez voir comme ce panneau ici, juste en bas, arrête juste avant le bord.
Once you see this, it becomes an extension in literal space. And I found the same thing happening here around the corner. You see that some of these planes stick out past the corner.
Et une fois que vous avez vu cela, c'est comme une extension littérale, une extension dans l'espace réel. Et vous pouvez le voir ici. C'est comme si ça dépasse les bords, même dans cette situation réelle.
Mondrian was not able to create this literal extension in painting, this being the 1937 composition from the Pompidou that graces the catalog cover.
Mondrian n'avait pas la capacité de créer cette extension littérale dans la peinture. Et ce tableau était une composition datant de 1937 du Centre Pompidou qui était sur la couverture du catalogue.
But even with his paintings, when you look closer, and not just frontally, that is, if you look at the painting as an object, you begin to see that often the color wraps around the stretcher. Seen at an angle, this creates a virtual plane expanding beyond the canvas.
Mais même avec ces tableaux, quand vous regardez de plus près et pas juste devant, c'est-à-dire si vous regardez le tableau comme un objet, vous pouvez commencer à voir que souvent, c'est la couleur tourne autour du coin presque, ce qui crée, vu sous cet angle, un plan virtuel qui dépasse la toile.
The same applies to the MoMA's Trafalgar Square and other works, a feature that has gone unrecognized because an important but generally unreflected focus on materiality overshadows the possibility of seeing Mondrian's play with virtuality.
La même chose peut être observée en ce qui concerne le MoMA dans la place de Trafalgar Square à Londres et d'autres œuvres. C'est quelque chose qui n'a pas été reconnu parce que une concentration sur la matérialité qui est importante mais généralement pas reflétée est considéré plus important que la possibilité de voir le jeu de Mondrian avec la virtualité.
The three modalities of neoplasticism I showed you today, that of Fontongolo's hyperspace, von Duisburg's tesseracts, and Mondrian and Rietveld's extension, all form part of de Staël's innovative and unique approach to the question of the plasticity of space.
Les trois modalités du néoplasticisme que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est-à-dire l'hyperespace de Van Tongerlo, les tesseracts de Van Doesburg et l'extension qui vient de Mondrian et Rietveld, sont une partie importante de l'approche unique et innovative de De Staël à la question de la plasticité de l'espace.
I will leave this talk open-ended with a studio photograph that has never been published. It's not this one. The two that I will show you here are the one on the left being these two have been published. The one on the left being the earliest studio photograph, dated from 1923, with Mondrian standing next to his easel in the company of Nelly van Doesburg, but with a limited view of the famous back wall. And the one on the right dating to the well-known series of that wall from 1926.
Je vais conclure cette intervention de manière ouverte en vous montrant une photographie de studio qui n'a jamais été publiée. C'est pas celle-ci. Les deux que je montre ici l'ont été. Celle à gauche est la photographie du studio la première photographie du studio qui date de 1923, qui montre Mondrian à côté de son chevalet avec Nelly van Doesburg, mais avec une perspective très limitée du célèbre mur qui est derrière. La photographie à droite date de 1926 et vient de la série célèbre de ce mur.
And this is the newly discovered photograph, which likely dates to 1924, in which Mondrian has hung a painting on the wall, which we never knew he did, a diamond composition which, despite its diagonal sides, reaffirms with its compositional structure the primacy of vertical and horizontal of that architecture held for him. Thank you.
Voilà la photographie qui a été découverte récemment, qui date certainement de 1924, dans laquelle Mondrian expose un tableau sur un mur. Nous n'avons jamais su qu'il avait fait. Et c'est un diamant qui, malgré ses plans diagonaux, réaffirme avec sa structure compositionnelle l'importance primaire qu'il attachait à la verticalité et l'horizontalité de l'architecture. Merci.
Marek Wizorek, merci. Michael White, merci. Avant de faire une petite pause, est-ce que des questions se présentent dans la salle? Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir et interpeller Marek Wizorek ou Michael White?
Juste une observation. Vous avez montré des photos de l'aubette et la photo en couleur que vous avez dit qui n'est pas très intéressante par rapport aux photos anciennes en noir et blanc. Il s'agit d'une photo prise d'une maquette et elle n'est pas du tout correcte. Il faut prendre des photos plus récentes.